Le journal Ramadan.
Mise sur pied d'une force européenne pour sécuriser les élections en République démocratique du Congo, des États occidentaux se disent prêts à déployer leurs troupes. La France et l'Allemagne ont déjà annoncé leur volonté. Le Portugal et l'Espagne pourraient également prêter leur concours. Province de l'Équateur, bagarre entre deux groupements du secteur Bosso Simba. Les habitants de Lingoy et Bosso Kuluki se disputent une portion de forêt. Bilan, un blessé par balle, un autre par coup de machette. Ouverture ce mardi de la conférence des bailleurs de fonds du Burundi. Ce forum rassemblera 43 pays. Cela arrive au moment où le pays éprouve d'énormes difficultés financières. Mesdames, Messieurs, bonjour. Plusieurs États européens se disent prêts à envoyer les troupes en RDC dans le cadre de l'Union européenne. Objectif, soutenir la MONUC dans la sécurisation des élections. Ces déclarations sont intervenues en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne tenue hier lundi à Bruxelles. L'Espagne et le Portugal pourraient également prêter leur concours à cette force européenne aux côtés de la France et de l'Allemagne qui ont déjà annoncé leur volonté de contribuer à la mise sur pied de cette force. Quant à la Belgique, qui légalement n'a pas le droit d'envoyer des troupes dans une de ses anciennes colonies, elle apportera un soutien logistique, comme l'explique Kipelamondo.
Avant toute chose, l'Union européenne tient à lever toute ambiguïté sur ces dossiers. Si beaucoup de ses membres se disent disposés à fournir des troupes pour constituer une force de vent épaulée, la mission onusienne en RDC a sécurisé la tenue des élections. L'UE s'oppose cependant à ce que ce soit une opération Artemis bis, comme celle dépêchée au Congo Kinshasa en 2003. Au cours de la rencontre d'hier à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères européens ont réitéré en des termes généraux leur disposition à mener une telle opération afin d'aider l'ONU à sécuriser le déroulement des scrutins en RDC sans pour autant prendre des décisions. D'autre part, les Européens ont du mal à rassembler les contributions nécessaires, notamment pour des questions de coûts et à trouver l'un de leurs devant prendre la tête des opérations. Les discussions en cours ont valeur de test pour l'UE, au moment où la famille européenne cherche à développer sa propre politique extérieure et de défense.
Le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé hier lundi dans l'après-midi à Kinshasa pour une visite officielle de 2 jours, clôturant ainsi une tournée africaine entamée depuis le 19 février en Gambie. En provenance du Gabon, où il a séjourné 4 jours en visite privée, Mohamed VI a été accueilli à l'aéroport de Kinshasa par le président Joseph Kabila. Le souverain marocain qui arrive pour la première fois en RDC est accompagné d'une importante délégation ministérielle. Plusieurs accords de coopération devait être signé en vue du renforcement de l'amitié et la coopération entre Kinshasa et Rabat. Cap vers le sud Kivu, poursuite de l'opération militaire baptisée Sentinelle du Sud. Plus de 1000 soldats des forces armées de la RDC appuyés par la MONUC tentent de déloger les FDLR du parc de Kahuzi-Biega, ce depuis vendredi dernier dans la région de Bunyakiri. Cette opération consiste à reprendre ce groupement, le sécuriser et aussi pousser les combattants hutu-rwandais à désarmer. Reportage d'Idas Namujibo.
C'est avec détermination que les forces armées de la République démocratique du Congo se sont lancées dans l'opération de sécurisation du parc national de Kahuzi-Biega. Ils sont plus de 1000 soldats de la 3e brigade intégrée et de la 1e brigade de réserve à participer à cette opération. Et ils sont motivés. Je vous propose de les écouter.
Nous sommes de la 3e brigade infanterie intégrée. Et maintenant, nous partons pour la mission. C'est une mission pour l'évacuation de la force des F de l'air. La morale est de très haut niveau parce que nous sommes en forme.
L'opération, appuyée par environ 300 casquets bleus, vise à reprendre le contrôle de la zone de Bunyakiri, à sécuriser les populations civiles et à pousser les FDLR à désarmer. Cette zone est recouverte d'une épaisse forêt où les rebelles hutu-rwandais disposent d'importantes bases. Explication du porte-parole militaire de la division Est de la MONUC, le major Hans Reichen.
Nous avons pu vider les quelques camps qu'on avait déjà repérés lors de reconnaissance préalable. Ces regroupements de FDLR ont été dispersés par les FARDC. Notre but, c'est que ces FDLR rejoignent d'eux-mêmes le processus DD3R afin qu'on puisse les rapatrier dignement au Rwanda. Et ils ne peuvent plus rester ici au Congo, les armes à la main.
Du côté de la population civile, cette opération est accueillie comme une libération après plus de 10 ans d'occupation de la région par les combattants hutus rwandais. Didas Namujimbo, Bukavu, Radio Okapi.
Restons dans le sud Kivu. La délégation des trois responsables des plus grandes agences humanitaires des Nations Unies est arrivée hier lundi. Sa mission, évaluer le rapatriement des réfugiés congolais dans la province. Les directeurs du HCR, de l'UNICEF et du PAM doivent se rendre ce mardi à Baraka, dans le sud de la province du sud Kivu. Notez qu'au moins 12 000 réfugiés congolais ont été rapatriés de la Tanzanie au sud Kivu depuis octobre dernier. Mais selon le chef de bureau du HCR à Baraka, ce rapatriement est ralenti par un problème. Ces rapatriés n'ont pas accès à l'eau potable et aux soins de santé. On écoute le chef du bureau HCR Baraka dans le territoire de Fizi, Magat Guis, et au téléphone de Serge Maéché.
Capacité d'absorption, cela veut dire quand les réfugiés retournent, ils doivent avoir accès à l'eau, avoir accès à des soins de santé, avoir accès à l'éducation. Ici, dans le territoire de Fizi, les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Au niveau des structures sanitaires, vous pouvez vous retrouver dans des structures qui n'ont pas d'équipement, qui n'ont pas de médicaments. Les seuls centres de santé qui sont appuyés par certaines ONG ne sont pas à l'abri également de ces problèmes. Et également, le problème d'abri, parce que la guerre a tout détruit.
Mais est-ce que vous pensez que l'arrivée de ces délégations du HCR de votre côté, que cela pourra faire bouger les choses?
Ah oui, j'ai bon espoir parce que, en fait, jusque-là, ce qu'ils ont eu comme information, c'est à travers des rapports. Mais une fois ici sur le terrain, ils auront une idée plus ou moins précise de la situation.
Une dizaine de véhicules de l'armée congolaise est arrivée samedi soir à Goma, d'après des sources militaires. Ces véhicules appartiennent à la 2e brigade intégrée venue de Kinshasa et qui poursuit son déploiement dans le territoire de Rutshuru. Ces jeeps et camions militaires seront mis à la disposition des commandants des unités. Au sujet du déploiement de la 2e brigade intégrée, 3 brigades sont déjà au nord Kivu. Selon des sources militaires, certains éléments de cette même brigade attendent toujours un vol pour Goma à l'aéroport de Njili à Kinshasa. Un blessé par balle, un autre par machette, bilan de la bagarre entre habitants des groupements Lingoy et Bosso Kuluki, deux groupements du secteur de Bosso Simba dans le territoire de Bongandanga, province de l'Équateur. À la base de ce différend, la dispute d'une portion de forêt. Une mission d'enquête composée des policiers est dépêchée sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Ghislaine Ntobo.
Selon les informations à notre possession, c'est un conflit qui date de 1990. Les habitants des Lingoy, venus de Ngunda à plus ou moins 5 km, ont été déportés vers Bosso Kuluki depuis 1930 par l'homme blanc qui avait besoin d'une forte main d'œuvre. La politique était de regrouper les localités en vue de former un grand village. Au début, les deux groupements cohabitaient en paix et exploitaient tous la même forêt. Mais ceux qui étaient hier des frères se regardent aujourd'hui comme chien et chat. Pour les ressortissants de Bosso Kuluki qui prétendent être originaires de la contrée, l'espace pour cultiver ne suffit plus pour eux et pour les ressortissants de Lingoy. Une décision qui a généré des bagarres entre les deux groupements voisins qui, pour se défendre, ont utilisé de part et d'autre des machettes, des lances, des flèches et des armes de chasse. Saisi de la situation, M. Théodore Kumbu, commissaire du district, a dépêché le week-end dernier une mission d'enquête sur le lieu pour arrêter toute personne impliquée dans cette bagarre, y compris les deux chefs du groupement. Au moment où nous parlons, une autre mission mixte ANR, cadastre et inspection de l'agriculture, se prépare de descendre à Bosso Simba pour étudier dans quelle mesure trouver une solution équitable à ce problème. Depuis l'Issala, Ghislaine Ntobo, Radio Okapi.
Du côté de Boma, le torchon brûle entre deux entreprises d'État, l'Office de gestion des frettes maritimes et l'Office national des transports. Les deux parties se disputent la construction par l'OGFREM d'un parc pour les grumes sur une concession appartenant à l'ONATRA, au petit port de Ngambou, dans cette 2e ville portuaire du Bas-Congo. L'OGFREM brandit des papiers cadastraux, estimant avoir acheté en toute légalité cette concession auprès des services compétents. Non, rétorque l'ONATRA, les deux entreprises du portefeuille appellent maintenant à l'arbitrage de leur ministère de tutelle, celui des transports et communications. Guirogé Niampala.
La concession disputée appartient à l'ONATRA, mais elle a été acquise en bonne et due forme par l'OGFM, l'Office de gestion des frettes maritimes, auprès des services cadastraux de Boma, avec comme objectif la construction d'un parc de stockage des grumes destiné à l'exportation. Mais l'ONATRA, propriétaire du site depuis l'époque coloniale, ne l'entend pas de cette oreille. L'ONATRA souhaite que l'OGFM arrête les travaux qu'il a déjà engagés pour l'aménagement de ce parc. Travaux qui, du reste, sont financés par le gouvernement. D'après les officiels du ministère de Transport et Communication dépêchés la semaine dernière à Boma, pour résoudre ce contentieux, la question a été confiée à une commission spécialisée pour une solution à l'amiable, puisque les deux entreprises d'État font partie du domaine de collaboration et que dans un cas comme dans l'autre, l'argent éventuel qui devrait être généré par le GFREM à la faveur de ce parc de bois, cet argent donc irait au trésor public. Dans le même temps, les responsables locaux de le GFREM à Boma affirment qu'en attendant la solution du ministère de tutelle de ces deux entreprises, les travaux continuent sur les site Querelé de Matadi, Guiroje Nyapala, Radio Okapi.
Le coordonnateur de la quarantaine animale et végétale au Katanga se dit préoccupé. L'afro-douanière fait toujours parler d'elle à la frontière de Kasumbalesa. Joseph Kahenga a déclaré à Radio Okapi que pendant cette période où la grippe aviaire a déjà fait son apparition en Afrique, il est important d'arrêter cette pratique. Il estime que tous les produits qui entrent en République démocratique du Congo par des voies détournées sont un danger pour la population. Nous ne quittons pas le Katanga. Lancement depuis dimanche de la campagne bénévole du de sang au centre hospitalier de transfusion sanguine de Kalemi. Environ 30 membres de la Croix-Rouge locale et ceux des unités de scouts ont répondu à l'appel. La cérémonie initiée par le centre provincial de transfusion sanguine de Lubumbashi s'est déroulée en présence des principaux médecins de Kalemi. Reportage François-Xavier Mibé.
Identification, pesée, interrogation, prise des tensions artérielles, prise des poules du cœur et enfin prélèvement de sang. Telles sont les principales étapes qu'ont franchi la trentaine des premiers donneurs bénévoles de sang composés des trois femmes de Kalemi. Tous étaient contents.
C'est donner seulement ma vie pour bien sacrifier aux autres qu'ils ne meurent pas.
Le responsable du laboratoire de transfusion sanguine de Lubumbashi, venu en appui de matériel prévu pour la sécurité transfusionnelle, a supervisé la cérémonie. Nicolas Ilunga.
Que la population réponde massivement à notre appel pour que le frigo de Kalemi ne puisse pas manquer des unités pour servir aux malades. 70% des transfusions concernent les enfants et ces enfants-là souffrent soit d'anémie liée au paludisme. Alors il ne faudrait pas qu'ils arrivent à l'hôpital devant l'urgence que le frigo soit vide.
La banque de sang vient à point nommé résoudre les différentes difficultés auxquelles est resté longtemps confronté l'hôpital de référence de Kalemi. Docteur Franck Bitilazi, médecin directeur.
La plupart des enfants qui nous arrivent ici, ce sont des enfants avec malnutrition, ce sont des cas de césariennes, de grandes interventions chirurgicales. En cherchant d'oser l'hémoglobine dans la famille, ça nous pose des problèmes. Mais dès qu'on a des unités de sang dans le frigo, ça va résoudre beaucoup de problèmes ici à l'hôpital.
Le centre hospitalier des transfusions sanguines de Kalemi bénéficie de l'assistance à la fois du programme des Nations Unies pour le développement, de la coopération technique belge et de la coopération technique allemande. François-Xavier Mibé, Radio Okapi, Kalemi.
Des centaines d'agriculteurs, éleveurs et pêcheurs en congrès depuis hier lundi à Kinshasa. Leur mission, mieux s'organiser et se constituer en syndicat pour défendre leurs intérêts. Ce congrès de deux jours organisé par l'Union nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Congo, UNAGRICO en sigle, se tient à la Foire internationale de Kinshasa. Écoutez le président de cette plateforme, Pierre Boukassa.
Nous avons organisé ce congrès d'abord pour démontrer à la face du monde qu'il y a une classe des agriculteurs congolais qui existe et qui est en train de tout faire pour arriver à bien se mettre en place, à bien s'organiser, pour contribuer aux prochaines échéances de la démocratie, là, que nous puissions aussi faire partie de tout ça.
Qu'est-ce que vous attendez à l'issue de ce congrès?
À l'issue de ce congrès, nous aimerions que nous ayons un syndicat d'abord des agriculteurs, une bonne organisation nous permettant de pouvoir mieux suivre ce qui nous concerne, ce qui est de notre domaine. Parce que vous savez que dans la plupart des cas, les agriculteurs sont un peu délaissés pour compte dans le pays.
Ouverture ce mardi de la conférence des bailleurs de fonds du Burundi. Il rassemblera 43 pays. Cela arrive au moment où le pays éprouve d'énormes difficultés financières. Bujumbura a en effet annoncé avoir besoin d'une aide d'urgence de 168 millions de dollars américains pour secourir les populations victimes de la guerre, de la famine. Cependant, l'ONG Human Rights Watch demande aux bailleurs de fonds d'exercer une pression sur le gouvernement burundais pour que les violations des droits de l'homme cessent. De Bujumbura, une correspondance de Chantal Gatoret.
Le président burundais Nkurunziza est optimiste et affirme que la conférence des donateurs sera une réussite parce que les bailleurs devront tenir compte du pas franchi dans le processus de paix et de la démocratisation. Malgré l'optimisme du président burundais, le rapport de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch, publié la veille de la dite conférence, est sévère à l'égard du gouvernement burundais et indexe l'armée gouvernementale et le mouvement FNL de torturer et d'exécuter sommairement les civils. Cette ONG américaine a demandé aux bailleurs de fonds de faire pression sur le Burundi pour que les droits de l'homme soient respectés dans ce pays. Ce lundi, le président Nkurunziza a minimisé ce rapport en soulignant qu'il n'aura aucun impact sur la conférence des donateurs. Dans sa réaction, il a été plutôt perplexe en reconnaissant la véracité d'une partie du rapport du Human Rights Watch, tout en se disant surpris par les allégations développées dans le dit rapport. De Bujumbura, Chantal Gatolé pour la Radio Okapi.
Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programme sur Radio Okapi. Okapi. Okapi.